France Musique. Grand Large, Corinne Schneider. De la Chine et de Shanghai, ce que je retiens, c'est la musique et les tons de la langue. Regardez cette calligraphie, c'est un poème très beau qui peut se chanter. C'est lisible et vocalisable en même temps. En Chine, on écoute quelque chose qui est à la fois un chant et un son. C'est préhistorique d'une certaine façon, tout en ayant 3000 ans d'histoire. Philippe Solers. Shanghai 1930. Dans le deuxième épisode de cette série, on pousse les portes des temples, on s'introduit dans les jardins et on pénètre à l'intérieur des maisons de thé, à la découverte des sonorités secrètes de la ville, des musiques ancestrales et des instruments traditionnels. Thank you. La pluie frappe les feuilles de bananier. C'est l'une des mélodies les plus anciennes et les plus populaires de Chine que nous venons d'entendre, mais dont la forme actuelle date du début du XXe siècle. De nombreuses musiques populaires se sont ainsi fixées et cristallisées dans les années 1910, 20 et 30 à Shanghai par les ensembles de musiciens qui jouaient notamment dans les maisons de thé. Et ce premier morceau est justement une musique d'accueil des invités, à l'opposé des musiques populaires de plein air, bien plus bruyantes avec les instruments de percussion et les hautbois. Il existe une musique chinoise d'intérieur qu'on appellerait volontiers chez nous de la musique de chambre. Restons encore à la fraîcheur des salons de thé aérés par les larges pales des ventilateurs plafonniers. Nous allons à présent écouter l'une des 8 grandes pièces musicales jouées dans les maisons shanghaïennes des années 30. Xin Xie, aux sonorités de la flûte traversière Di Zi, de l'orgue à bouche Cheng, du luth Pipa, de la vielle He Ru et de la sitar Yang Xin.
Thank you.
L'accélération croissante du tempo est l'une des caractéristiques de cette musique classique chinoise. Le principe de la mélodie ornée par tous en est un autre. En effet, vous avez pu entendre la superposition de différentes variations individuelles de la même mélodie. Et il faut savoir que les musiciens qui se réunissent pour jouer ainsi collectivement et varier à souhait ces mélodies ancestrales n'utilisent aucune partition. Loin du bunt et des banques, loin des cabarets et de l'agitation nocturne, au calme de leur pavillon, les lettrés pratiquent au fond de leur cabinet ou de leur jardin une musique des plus raffinées jouée en solo, le plus souvent sur la sitar tsin ou le luth pipa. Chez les Chinois, la pratique d'un instrument de musique n'est pas qu'un plaisir esthétique. Au même titre que la calligraphie, elle forme aussi l'individu et sa personnalité, son esprit autant que son corps, le but étant la maîtrise de son geste et la culture de soi. À ce titre, la musique laisse d'ailleurs une large place aux émotions de l'interprète. Assaillie par la tristesse ou la nostalgie, par le chagrin ou la solitude, le musicien donne une forme à ses émotions par son jeu instrumental. Ainsi, elles ne sont plus subies, mais deviennent une richesse et un art qui permettent à l'être de vivre en accord avec elles.
Thank you.
redécouvert dans les années 1930, le shoin est le plus vieil instrument chinois découvert dans les sites archéologiques. On a retrouvé des exemplaires de plus de 7000 ans. Il s'agit d'une flûte globulaire en argile que nous appelons, nous, ocarina. Très souvent, les musiques instrumentales de la Chine ancienne sont liées à la poésie. La mélodie que nous venons d'écouter est inspirée d'un poème de l'époque des Tang, évoquant la nostalgie du départ de celui qui quitte la terre de ses ancêtres pour s'aventurer dans le désert d'Asie centrale. Un instrument en argile. La matière n'est pas anodine, car dans la musique traditionnelle chinoise, on distingue 8 timbres fondamentaux qui proviennent justement de la matière utilisée pour fabriquer les instruments. La terre pour l'ocarina, le métal pour la fabrication des cloches et des cymbales, la pierre, le plus souvent plate, pour faire des lithophones, la peau pour les tambours, la soie pour les cordes des sitars, le bois pour les instruments de percussion, le bambou pour les différentes flûtes et la calebasse pour confectionner la caisse de résonance de l'orgue à bouche.
Bye.
On peut jouer de l'orgue à bouche, sheng en chinois, en inspirant ou en expirant, un peu comme avec l'harmonica. C'est un instrument virtuose, tant pour la technique digitale que pour la technique de souffle particulière. Et puis, il y a aussi ces mouvements de langue qui précisent et varient l'articulation. En Chine, on joue le petit orgue à bouche en le tenant des deux mains devant le visage. On peut ainsi jouer en marchant dans les défilés, par exemple. Mais il y en a également de très grande taille dans les orchestres. Il faut alors s'asseoir pour en jouer.
C'est l'été sur France Musique. Grand large, Corinne Schneider.
La musique traditionnelle chinoise repose sur une échelle de 5 notes qu'on appelle la gamme pentatonique. Chacune de ces notes est associée à l'un des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, mais aussi à l'un des 4 points cardinaux, la première note étant liée au milieu. Les 12 hauteurs pivots de cette échelle de son correspondent aux 12 mois de l'année. Par son système d'échelles et de notes, la musique chinoise est ainsi intimement liée au rythme même de la nature et on lui confère ainsi le pouvoir de s'unir à l'harmonie de l'univers.
Thank you.
Nous écoutons l'un des grands maîtres de musique de Shanghai, Chen Zhong. Il est né en 1919 sur la rive est du fleuve Rangpo qui baigne la ville, dans le quartier de Pudong, exactement où se dressent aujourd'hui les tours les plus hautes du monde. Son premier instrument est la flûte traversière Dizhe et la vielle Heru. Puis il étudie le luth pipa, la sitar Tsin, la flûte verticale Xiao que nous entendions ici, et il a même contribué à la redécouverte de l'ocarina que nous écoutions tout à l'heure. Après avoir joué avec les principaux ensembles de musiciens traditionnels, Chen Zhong a fondé en 1940 l'Association de recherche pour la musique chinoise de Shanghai, qui fut l'un des plus grands centres de recherche concernant la musique traditionnelle chinoise, un centre duquel fut proche un musicien et musicologue parisien, François Picard, grâce à qui nous devons ces merveilleux enregistrements de musique traditionnelle chinoise que nous écoutons depuis le début de cet épisode et qui appartiennent au fonds Okora Radio France. Allez, des maisons de thé, nous allons à présent nous rendre dans les temples bouddhistes de Shanghai. Le bouddhiste, c'est la propagation des sonorités des tambours, des cloches, des cymbalettes et les chants des moines qui structurent le rituel. Nous venons de pénétrer dans le temple du Bouddha de Jade, qui se situe à Shanghai dans le district de Jin'an, un temple fondé en 1882 pour abriter deux statues de Bouddha en jade importées de Birmanie. Un Bouddha assis de près de 2 mètres de haut pesant 3 tonnes et un Bouddha plus petit et allongé, le représentant à l'approche de la mort. On change de quartier et d'atmosphère. Nous voici à présent dans le district de Shuhui, où se trouve le plus grand temple de Shanghai, le temple Longhua, qui abrite la pagode des fleurs du dragon. Une pagode à 7 étages de 40 mètres qui constituait l'édifice le plus haut de la ville jusqu'à l'ère moderne. Le tambour que vous allez entendre prend place dans un édifice à part. C'est une tour qui renferme également une cloche en bronze coulée en 1894 de plus de 3 tonnes. Shanghai en 1930 compte encore de nombreux autres temples, à l'image de la diversité du sentiment religieux qui existe dans cette ville. Chaque quartier possède en effet son protecteur auquel les habitants font des offrandes régulières. Mais les années 30 restent les années 30. Imaginez un peu, le temple de Jin'an était alors dirigé par l'abbé au pseudonyme de Qi Weidu, qui était un véritable gangster. Entouré en permanence de ses gardes du corps russes pour le protéger de la pègre, il entretenait un harem de 7 concubines, comme quoi l'habit ne fait pas le moine.
C'est l'été sur France Musique. Grand large, Corinne Schneider.
Du temple, je vous propose de passer à présent à l'opéra avec le kunchu, qui est l'une des formes de spectacle musical les plus anciennes de Chine, que l'on peut faire remonter au XVIe siècle. Le kunchu connaît son âge d'or sous la dynastie des Ming, et s'il perd de sa popularité au XIXe siècle au profit de l'opéra de Pékin, il renaît au début des années 1920 avec l'ouverture de centres de formation d'acteurs-chanteurs. Il faut quitter Shanghai par le nord-ouest, donc à l'opposé du fleuve Hangpu, et se diriger vers les villes d'eau de Suzhou et de Kunshan pour trouver le berceau de cet art si raffiné. Mais de quel genre de spectacle s'agit-il précisément? Le kunchu est un théâtre chanté et mimé. Les pièces sont très longues et comprennent de 40 à 50 actes. Les sujets puisent dans l'histoire autant que dans les légendes. Mais contrairement à l'opéra de Pékin, ce ne sont pas les grands combats qui comptent ici, mais plutôt l'expression des sentiments nobles et élevés, les sentiments amoureux en première ligne. C'est par exemple le cas du plus célèbre des opéras kunchu, le Pavillon aux pivoines.
Oh,
Nous écoutons un extrait du Pavillon aux pivoines, un opéra qui date de 1598, construit en 55 scènes par Tang Xianzu, l'un des plus grands dramaturges de l'époque Ming. L'histoire est celle d'une jeune aristocrate séduite par un jeune homme lettré et pauvre qui lui est apparu en songe par un bel après-midi de printemps alors qu'elle s'éventait à l'abri d'un pavillon aux pivoines. Captive de son amour impossible, elle se laisse mourir de mélancolie. Mais la constance de son amour est plus forte que la mort. Elle visite le jeune homme dans ses rêves et l'incite à creuser dans sa tombe pour la libérer. Ce qu'il fait. Parvenue à gagner la pitié du juge des enfers, elle revient ainsi à la vie et l'amour du couple peut enfin se réaliser dans une belle harmonie. Plus tardif est le Palais de l'éternelle jeunesse qui narre l'histoire d'amour entre l'empereur Xuanzong et sa concubine Yan Guifei. Un extrait du Palais de l'éternelle jeunesse, un opéra à Kunshu de 1689, c'est-à-dire 2 années après la mort de Jean-Baptiste Lully, pour établir une correspondance avec l'opéra versaillais contemporain. Et sachez que cette grande tradition de l'opéra chinois du Kunshu a été classée par l'UNESCO depuis 2001 comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Thank you. 起来再给人类一次机会，
du deuxième épisode de Shanghai 1930, une série produite par Corinne Schneider et réalisée par Christine Amado, avec la collaboration de Clara Nouvelle et Maude Nourry pour la documentation et de Valérie Lavalard au son et au mixage. Quand la légende rejoint la grande histoire, il sera question demain, dans le troisième épisode, des œuvres musicales qui prennent leur source dans les récits historiques et les épopées mythiques.
À réécouter sur francemusique.fr.